Notre Père céleste, nous sommes reconnaissants de ta présence, de ta bonté envers nous. Et nous nous humilions devant toi pour te rendre grâce de ta fidélité, ton pardon, ta patience aussi pour nous dans notre marche avec toi. Merci de nous combler, Seigneur, de nous ouvrir les yeux, sachant que nous avons tout pleinement en toi et que nous puissions marcher dignement à une marche victorieuse qui t'honore, te glorifie, où que nous soyons, où que nous allions, que nous répandions la bonne odeur de Jésus-Christ. Merci Seigneur des bénédictions que tu offres et que tu donnes comme des cadeaux merveilleux à tes enfants, jour après jour, semaine après semaine. La façon dont tu pourvois, la façon avec laquelle tu nous enrichis de ta présence. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous avons soif de toi. Nous avons besoin de toi. Nous t'aimons, nous te chérissons, nous te bénissons et nous te donnons toute la gloire. Merci d'être avec nous dans ces moments d'instruction de ta parole, afin que cette parole ait un effet sur nos cœurs, pas simplement pour chatouiller nos oreilles, mais qu'elle pénètre en nous, quitte à trancher, mais que, Seigneur, nous ne soyons pas des auditeurs oublieux et que ce message, Seigneur, puisse te glorifier, t'honorer, parce qu'il transforme notre vie, parce que ta parole est une lumière sur notre sentier. Merci Seigneur. Amen. Alors, nous lisons, si vous voulez bien, maintenant, Éphésiens, chapitre 4, et verset 28. Il est écrit que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaisse du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. C'est merveilleux de voir comment Dieu a conduit l'apôtre Paul dans ce fardeau d'écrire de telles vérités et notamment sur la marche avec le Seigneur. Dans l'épître aux Éphésiens, à partir du chapitre 1, il y a tout ce que nous avons en Christ et il y a dans les trois premiers chapitres, la théologie du salut, ce que nous possédons en Christ et l'Église, le mystère révélé. Et à partir du chapitre 4, c'est le côté pratique, pragmatique de l'Épître, parce qu'on pourrait se réjouir d'être intelligent, de connaître des choses, mais Dieu nous s'attend à ce que nous les mettions en pratique, que nous les vivions. Ne soyons pas simplement des auditeurs ou des lecteurs oublieux, mais que nous mettions cette parole en pratique, ce qui démontre vraiment notre marche avec lui. Alors, en résumé, là je vais passer assez vite, parce que ça fait deux dimanches, n'est-ce pas, qu'on fait une petite rétrospective, mais c'est toujours bon de voir un petit peu là où on est dans un livre. Alors, ici, le titre ou le thème depuis le verset 17, c'est la marche en nouveauté de vie. On est selon la marche, selon les principes de la vie nouvelle, et on va regarder ce matin ce que c'est que de renoncer au vol, aux paroles mauvaises, et ne pas attrister le Saint-Esprit. Alors, un rapide rappel, le plan en Éphésiens, c'est la conduite chrétienne, c'est là où on est depuis le chapitre 4, verset 17, la vie personnelle jusqu'au verset 32, ensuite on regardera la vie en société, le témoignage du croyant, chapitre 5, verset 1 à 21, et puis la vie du croyant dans la famille. D'ailleurs, c'est tellement important de vivre Christ partout où nous sommes, n'est-ce pas? Ça commence dans ma relation avec Dieu intime, c'est là où tout se passe pour vivre la vie chrétienne, là où Dieu me place et là où je suis responsable de briller et d'être le sel de la terre. Alors la marche du croyant dans sa vie personnelle, on a vu tout d'abord que c'est répudier à la vie ancienne, c'est la mettre de côté, c'est connaître Christ, changer d'homme et puis changer de conduite. Changer de marche, changer d'homme, changer de conduite. Et dans la conduite, Dieu nous demande de répudier notre vie ancienne. On a vu ce que c'est que la marche du païen. Il y a la vanité des pensées, c'est écrit du verset 17 au 19, c'est ce qu'on a vu. L'intelligence obscurcie, privée de la vie de Dieu. Et finalement, l'insensibilité qui amène le dérèglement lié à la cupidité et à l'impudicité. Et connaître Christ, on a vu que c'est apprendre, entendre et être instruit de lui. Alors, est-ce que nous voulons être instruits de lui? Certainement. Nous voulons connaître Christ pour grandir et marcher selon sa volonté. Marcher en nouveauté de vie, c'est donc être instruit en lui. Et la Bible nous dit que nous devons nous dépouiller, que nous devons être renouvelés et revêtir l'homme nouveau. On a vu cela en détail. Alors, selon Paul, le croyant devrait avoir une marche digne, du chapitre 4, verset 1 jusqu'au verset 3, une marche digne qu'amène entre parenthèses la paix, l'unité dans l'Église et la croissance dans l'Église. Ensuite, une marche différente de celle des païens, donc le croyant doit être différencié de ce qu'est la marche du païen. Quelqu'un a dit un jour à propos du croyant, sa vie parle tellement fort qu'on ne peut pas l'entendre. Il faut que notre vie soit en accord avec nos paroles, de manière à ce que nous ayons un témoignage conséquent. Ensuite, la marche en nouveauté de vie, on l'a regardé, et la marche selon une nouvelle conduite. Alors, nous allons regarder, j'ai mis le tableau, mais rapidement, par rapport à partir du verset 25 jusqu'au verset 32, il y a un contraste, en effet, entre ce qui est la source, la vie à partir du vieil homme, et ce qui est la nouvelle vie, n'est-ce pas, à partir du nouvel homme. Tout d'abord, Dieu nous demande de renoncer aux mensonges et de parler avec vérité. Et puis, dans notre vie, ça touche la parole. Évidemment, la raison, c'est d'être transparent. Et nous vivons dans un corps, nous devons être honnêtes les uns envers les autres. La deuxième partie du tableau ici, c'est la colère. On a vu que Dieu nous demande à être lent à la colère. Et en fait, il y a la colère justifiée, mais qui ne doit pas demeurer, qui ne doit pas devenir une irritation ou une amertume. Et la colère injustifiée, qui est la colère de l'homme, n'accomplit jamais la justice de Dieu. La Bible nous invite à ne pas pécher si on se met en colère, et donc à mettre rapidement en règle dans notre cœur ce sentiment d'émotion de colère devant Dieu. Et c'est évidemment, ça touche la pensée. Et l'abandon à la colère, ce serait l'abandon de notre vie au diable lui-même, puisque la colère peut donner accès au diable, comme d'autres émotions d'ailleurs. En fait, on va regarder donc ce qui est le vol, l'exhortation à céder, n'est-ce pas, dans nos vies, à renoncer au vol, et puis par un travail honnête et généreux, ça touche les actes. Et c'est évidemment sous-entendu l'idée que l'amour doit bannir l'égoïsme. Et puis, renoncer à toute parole malsaine. Évidemment, l'homme nouveau nous demande d'avoir une bonne parole qui édifie, qui communique une grâce. Ça touche encore la parole et nous sommes appelés à construire et non à corrompre. Et enfin, rapidement, le dernier, attrister le Saint-Esprit, donc devenir bon, compatissant, nous pardonnons réciproquement, et ça touche tous les domaines. Ça veut dire quelque part que ce que je vis avec Dieu, dans l'intimité avec Dieu, dans mon caractère, va se refléter avec les autres. Ce que je vis verticalement avec Dieu se reflète dans ma relation avec les autres. Où en est ma relation avec les autres ? Dieu permet parfois dans le cœur du croyant de réaliser, de prendre conscience des symptômes d'un mal avec les autres qui est lié finalement d'un mal avec Dieu lui-même. Donc nous devons veiller à cultiver une relation avec Dieu. Notre relation envers les autres est le reflet de ce que nous vivons avec Dieu. Donc c'est un appel vraiment à se sanctifier. Dieu nous appelle à renoncer aux mensonges, à renoncer à la colère et à ne pas donner accès au diable. Alors j'ai mis ça parce que la dernière fois on a parlé beaucoup de colère, n'est-ce pas? Il y avait tout un tas d'illustrations et de choses intéressantes, je ne peux pas revenir en arrière. La colère, n'est-ce pas, amène à toutes sortes d'attitudes. Alors là, il dit, ne vous mettez pas en colère, ne péchez pas. Ceci dit, nous allons regarder tout d'abord ce que c'est que renoncer au vol. Quelqu'un a dit que peut-être que Dans la nature humaine, il est difficile de ne pas penser voler ou être à l'abri de la tentation de voler. Le jeune enfant a une tendance aussi, qui peut se développer en lui, à s'amuser de voler, peut-être voler jusqu'à ce qu'il ne soit pas pris. En fait, voler, dans le cas du croyant, caractérise la vie du vieil homme. Il n'a pas de place pour l'homme nouveau. Alors vous allez me dire, mais moi je ne vole plus. Alors le mot dérobé dans le grec, c'est klepto, qui a donné le mot kleptomane ou kleptomanie. L'idée, c'est qu'en fait, Dieu nous demande de ne pas dérober. Mais qu'est-ce qu'on peut voler? Vous savez, on peut voler Dieu, on peut voler du temps à Dieu, de l'argent à Dieu, on peut voler les autres, on peut voler, il y a toutes sortes de choses. J'ai fait une petite liste que j'ai trouvée dans un commentaire, mais le vol à l'étalage, c'est marrant. Le vol à l'étalage, enfin c'est marrant, façon de parler. Mais ça ne fait que prendre des proportions croissantes et alarmantes. J'ai regardé sur Internet les statistiques en France du vol à l'étalage. Alors les Français, on doit se tenir en garde parce qu'il semble que c'est une coutume fréquente. À chaque seconde en France, écoutez-moi bien, à chaque seconde en France, l'équivalent de 155 euros sont volés dans les magasins, dont un tiers le serait par le personnel. Cela représente 4,9 milliards d'euros entre mi-2008 et mi-2009, soit 4,42% du chiffre d'affaires de ces magasins. En croissance un an plus tôt, puisque le pourcentage était 1,37. Donc il y a une croissance dans le vol aux étalages. On parle de valises en ce moment, on parle des détournements de fonds, de notes de frais et heures de travail mensongers, de revenus cachés, de voler le fisc par des revenus qui ne sont pas déclarés. Hier, j'ai visité un homme qui était chef d'entreprise. Il me racontait dans la région ici combien de fois il avait été sollicité, n'est-ce pas, pour avoir l'appel d'offres et le gagner des dessous de table. Alors, c'est un chef d'entreprise assez important et on parlait de ça. C'est incroyable comment la corruption peut s'installer, n'est-ce pas? Et c'est volé. J'ai été surpris un jour, j'avais un camarade qui faisait son service militaire. Il était tout fier de nous expliquer comment il arrivait à voler. Il travaillait au mess des officiers, il travaillait au bar, il s'occupait du bar. Comment il arrivait à voler tout le monde, à se mettre de l'argent de côté en augmentant, n'est-ce pas, le coût de toutes les boissons, les choses qu'il vendait. Il était très fier de dire ça. Mais c'est grave. C'est volé Dieu. Je me souviens avoir entendu M. Alain Choiquier donner un exemple d'une dame qui a entendu le message de l'Évangile, est venue le voir et a dit « Écoutez, j'arrive pas, donc je ne suis pas sauvée, et j'arrive pas, j'ai pas la foi, je ne sais pas ce qui se passe, mais je ne veux pas aller en enfer, mais j'arrive pas à croire. » Alain Choiquier, le Seigneur a certainement inspiré son cœur à ce moment-là, dit « Mais y a-t-il quelque chose dans votre vie qui vous empêche de croire ?» comme un obstacle devant Dieu. Je dis oui, en ce moment, je ne sais pas, Dieu travaille dans ma conscience, je pense à quelque chose. Il y a quelques années, j'ai volé dans un magasin. J'ai volé un sac. Et je m'en souviens très bien. Alors je dis, mais voilà, c'est simple, on va aller au magasin ensemble et vous allez dire que vous avez volé et que vous êtes prête à payer maintenant le prix de votre vol. Restituer, certainement le sac étant devenu usagé, ça ne marchait pas. Je dis, je ne peux pas faire ça. Qu'est-ce qu'ils vont pas... Mais écoutez, vous voulez avoir une bonne conscience envers Dieu, vous devez commencer par cela. Et il l'a amené voir le directeur du magasin qui dit, écoutez, ça fait 15 ans que je suis directeur de ce magasin, c'est la première fois de ma vie que je vois quelqu'un en train de revenir et de confesser son vol et de vouloir restituer. Alors ça s'est bien passé, elle a voulu quand même payer, elle a restitué, etc. Et cette dame est devenue vraiment une enfant de Dieu. Le vol est un péché. Vous savez, c'est subtil, le cœur humain. Et on a vu ces temps-ci que marcher avec Dieu, c'est renoncer au péché, au vieil homme, pour revêtir l'homme nouveau. Et il y a un combat dans la vie du croyant. Et nous devons, et nous sommes appelés, comme nous sommes appelés à renoncer au mensonge, à la colère, nous sommes appelés à renoncer au vol. C'est très subtil, le vol. Très subtil. Et veillez particulièrement à ne pas tomber dans ce travers. Mais la Bible dit qu'il doit renoncer Donc celui qui dérobait ne dérobe plus, donc c'est un commandement, hein, mais qu'il doit travailler. C'est positif cela, mais qu'il travaille. Parce que c'est vrai que la paresse peut amener quelqu'un à voler. C'est plus facile d'aller, enfin, façon de parler, dévaliser une banque peut-être, que d'aller travailler et d'avoir un patron et de se soumettre, de travailler régulièrement, mais qu'il travaille. En fait, Dieu veut que tous ceux qui sont capables de travailler, travaillent. Il n'y a pas de la place pour la paresse. D'ailleurs, 2 Thessaloniciens 3, versets 10 et 11, dit « Lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Nous apprenons cependant qu'il y en a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre, qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent de futilité. » La vie de bohème, la vie de paresse, la vie nonchalante, n'est-ce pas, peut entraîner à toutes sortes de mauvaises actions, mauvais sentiments et le vol. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, dit l'apôtre Paul à Timothée, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi, il est pire qu'un infidèle. Dieu veut que nous travaillions pour pouvoir avoir besoin de notre famille. En faisant de ses mains ce qui est bien, c'est intéressant ici, c'est que le mot bien dans le grec, agathos, signifie la qualité du travail et désigne un emploi qui honore Dieu. Dieu veut que le croyant ait un travail honnête, honorable et productif. Et je dirais, là, le croyant doit être placé dans un endroit où il peut travailler en toute liberté, sans compromis par rapport aux normes divines. Je me souviens, bon, je le mentionne parce que ça me vient à l'esprit, mais notre fils Daniel était dans une situation à un moment donné où on voulait le faire mentir. Il a dit non, dans sa profession, je ne peux pas mentir et je dirai la vérité si on me le demande. Mais vous savez, le croyant qui commence à faire des compromis dans sa vie, dans le travail, qui peut utiliser le mensonge, une secrétaire à qui on dit « le patron est là, dites que je ne suis pas là ». Mais si vous êtes croyant, on ne peut pas dire ça. C'est un mensonge. C'est un mensonge. Et notre fils, eh bien après, il était connu pour quelqu'un d'honnête. Il vaut mieux être connu, quitte à être persécuté un certain temps, pour être un homme droit, sans compromis, que de céder à la tentation du vol. Un travail honnête, faire de ses mains. C'est l'idée ici que chaque personne doit pouvoir ses propres besoins et même d'aider ceux qui sont dans le besoin pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Le voleur, il dérobe pour son propre bénéfice, tandis que le croyant, c'est ça qui est extraordinaire, la nouvelle naissance, il travaille dans le but même de partager avec celui qui est dans le besoin. Le voleur est égoïste. Le travailleur honnête travaille en pensant aux autres. C'est merveilleux cela, c'est merveilleux. Alors pour le croyant, son désir c'est de gagner plus pour pouvoir aider les autres après avoir comblé les besoins de sa propre famille. Et je dirais que le travail est un moyen de glorifier Dieu. La Bible dit « faites tout pour la gloire de Dieu ». Si mon travail ne glorifie pas Dieu, je dois changer de travail. Change de travail. Ne reste pas dans un endroit où tu ne peux pas glorifier Dieu d'une manière ou d'une autre, ou avoir un témoignage précieux. Moi, j'ai été bouleversé, j'ai fait un an de carrière, je me suis couché très tard, mais j'ai été pris tout d'un coup, quelqu'un a téléphoné, puis je voulais voir un résumé de quelque chose, mais il y avait les témoignages des astronautes qui ont marché sur la Lune. Ah, c'était passionnant, je ne sais pas si vous l'avez vu. Oh, et puis des chrétiens qui ont témoigné, qui ont lu la Bible, moi, ça m'a vraiment passionné cela. Ça m'a vraiment passionné. Et on peut avoir une activité qui glorifie Dieu. Quelque part, mon travail, si je travaille 8 heures par jour, 40 heures par semaine, enfin bon, 35 peut-être, dans mon cas, ce n'est pas le cas, pour me glorifier, mais gloire à Dieu. Je dois avoir un travail qui glorifie Dieu, un travail qui m'amène à une certaine satisfaction, où je peux témoigner, je dois m'engager dans mon travail avec des buts qui glorifient Dieu, de servir Dieu, servir les autres. Ça fait toute une différence. Quels sont vos objectifs dans votre travail, dans votre relation avec les autres? Soit que vous mangiez, que vous buviez, dit l'apôtre Paul, soit que vous fassiez quelque autre chose, donc le travail, faites tout pour la gloire de Dieu. Est-ce que votre travail actuel glorifie Dieu? Ou alors vous avez peut-être besoin d'apprendre à placer votre travail devant Dieu pour qu'il commence à glorifier Dieu dans votre attitude et comportement. Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à mes besoins et à ceux de personne qui étaient avec moi. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Le voleur vole, n'est-ce pas? Il fait ça. Il amasse pour lui. Tandis que le croyant, il travaille fort en pensant aux autres. C'est merveilleux cela. C'est bien. Il n'y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Un deuxième aspect, c'est de renoncer aux paroles mauvaises. Donc, de perdre l'habitude d'avoir des paroles mauvaises pour prendre l'habitude d'avoir des bonnes paroles. La Bible dit qu'il ne sort de votre bouche aucune parole mauvaise. Le mot « mauvais » ici, dans l'original, signifie « corrompu »,« infecté ». Et en fait, on l'utilisait à l'époque pour montrer la corruption ou la pourriture des fruits et des légumes. Je ne sais pas si vous avez déjà pris un petit déjeuner, ah, vous avez une belle pomme, n'est-ce pas, qui semble relativement saine, et vous le mettez dans votre, je sais pas, céréale, vous coupez, petit coup, oh, tout est pourri. Est-ce que vous allez la manger? Est-ce que vous avez vraiment vu un fruit ou un légume pourri qui sort du frigo, là, tout juteux, affreux? Vous avez envie de manger ça, là? Mais Dieu dit que quand il y a une parole mauvaise qui sort de la bouche du croyant, c'est infect, ça pue. C'est la Bible qui le dit. Hein. C'est pas bon. La parole mauvaise détruit. Telle parle comme un glaive. La parole peut tuer. Hitler a écrit un petit livre, Mein Kampf, quand il était en prison. Ce simple caporal qui est devenu, n'est-ce pas, un dictateur qui a fait tuer des millions de gens. Un jour, un juif, et je ne me souviens plus le calcul, avait calculé combien chaque parole écrite, parce qu'il a aussi beaucoup parlé, Hitler, hein, et harangué les foules, combien chacune de ses paroles avait tué des milliers de gens. C'est la puissance de la parole. Jacques nous avertit que la langue est un feu dévorant, un gouvernail qui peut faire du mal, qui donne des directions, qui peut détruire. Nous serons jugés pour toute parole que nous aurons dite. Ça devrait nous faire frémir cela, parce que la parole est parfois abondante dans nos bouches. Mais ici, l'idée, c'est que le croyant devait se préserver de paroles grossières. L'autre jour, je suis allé chercher une lettre recommandée à la poste. Il y avait une dame qui cherchait quelque chose qui s'est énervée. Et en l'espace de 5 minutes, je ne vous dis pas tous les jurons, les gros mots, les mauvaises paroles qu'elle a sorties. Pourtant, une dame bien habillée, avec de beaux bijoux, chic, hein, BCBG. Mais dans sa bouche qui sortait, ça détruisait toute l'apparence de cette femme. Et j'avais envie de lui dire, vous ne pouvez pas vous taire, madame? Je n'ai pas osé. Hein. Mais j'aurais été à côté d'elle, peut-être, parce qu'à un moment donné, il faut peut-être dire quelque chose. Colossiens 3:8, la Bible dit, « Maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. » Ça vous est jamais arrivé à un gars à côté de vous qui commence à raconter une blague grossière, puis tout le monde rit. Et comment vous faites-vous? Quelle face avez-vous? Eh bien, vous pouvez prendre position. Moi, j'ai trouvé que le mieux, tu écoutes, ça ne m'intéresse pas ce que tu dis. Dites-le de suite. Qu'on ne vienne pas piétiner vos plates-bandes, n'est-ce pas, dans votre cœur. Vous n'avez pas, vous avez le droit de ne pas vous laisser piétiner par les autres, dans votre conscience, dans vos oreilles. Vous avez le droit de fermer vos oreilles. Et vous avez le droit de fermer la bouche des autres si c'est nécessaire. Parce que nous ne sommes pas appelés à entendre n'importe quoi. Il y a un esprit, n'est-ce pas, parfois de grossièreté, de blagues qu'un croyant devrait fuir. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entend plutôt des actions de grâce. C'est incroyable, la vie du croyant, il peut louer le Seigneur. Et dans sa vie, même parmi les inconvertis, il y a une attitude extraordinairement positive, c'est de louer le Seigneur. Vous avez des gens autour de vous qui disent « Ah, je remercie le Seigneur, il fait beau aujourd'hui. » Vous mettez le mot « Seigneur », ça enclenche quelque chose. Faites en tout temps, rendez grâce en tout temps. Et c'est une façon d'avoir un bon témoignage. Que dit Jacques à ce sujet au propos du contrôle de la langue? Écoutez bien, la langue aussi est un feu, c'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptées et ont été domptés par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. La langue est proche du cœur. Et la langue peut dire des choses qui peuvent faire terriblement mal. Éternel, dit le psalmiste, mets une garde à ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres. Et Jésus a dit, race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Le croyant n'est pas amené à parler de façon grossière ou mauvaise. Dans son cœur, l'apôtre Paul nous exhorte en Philippiens, il dit que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertu, dit le louange, soit l'objet de vos pensées, et on pourrait ajouter de vos paroles, parce que la parole vient de la pensée. Mais s'il y a quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Alors premièrement, la Bible dit que nous devons parler de façon appropriée s'il y a lieu. Selon le besoin. Parfois, il vaut mieux se taire. On fait moins d'erreurs en se taisant. Mais on peut faire des erreurs en ne parlant pas aussi. Hein? Comme des pommes d'or sur des ciselures d'argent, ainsi est une parole dite à propos. Vous écoutez les gens, puis c'est vrai que les paroles signifient beaucoup. Vous écoutez les gens, et puis vous entendez des paroles sages ou des paroles insensées. Mais le croyant devrait être imbibé de ce bon sens spirituel parce que rempli de la sagesse de Dieu, acquise par la lecture, l'étude, la méditation, la parole de Dieu. On éprouve de la joie donner une réponse de sa bouche et combien est agréable une parole dite à propos. D'ailleurs, bonne parole dans le grec, ça signifie une parole avantageuse qui apporte quelque chose. Une bonne parole. Dieu veut que nous parlions avec de bonnes paroles. Mais pas simplement parmi les croyants. Le dimanche, c'est beau, tout le monde est gentil, tout le monde est beau, on se dit de bonnes choses. Mais dans la semaine, je suis libre de dire tout ce que je veux. Non. La bonne parole doit servir comme le sel, la terre, la lumière du monde dans notre vie quotidienne et marche avec le Seigneur jour après jour. Donc, premièrement, nous devons parler de façon appropriée, dire ce qu'il faut au bon moment de la bonne façon. Deuxièmement, les paroles d'un chrétien doivent servir à l'édification, une parole qui sert à l'édification, donc qui est utile, constructive, encourageante, instructive et même parfois corrective. Ça vous est jamais arrivé d'entendre quelqu'un parler et après qu'il ait parlé, vous vous êtes senti mille pieds sous terre parce que ses paroles n'étaient pas appropriées ou n'édifiaient pas et vous entendez des gens qui... Vous pourriez entendre des gens qui sont toujours négatifs, qui parlent toujours mal des autres. Il y a une grande différence de se tenir à côté de quelqu'un qui parle toujours bien ou jamais mal des autres et quelqu'un qui est toujours en train de critiquer. Une bonne parole, c'est une parole qui édifie, qui bâtit, qui se réjouit, qui apporte la guérison même, je dirais. Troisièmement, Dieu veut que nous communiquions une grâce. Comme a dit l'apôtre Paul, on doit parler de la vérité avec amour, Éphésiens 4, verset 15. Et John MacArthur, dans un de ses commentaires, dit « Tout comme la grâce caractérise Dieu, elle devrait caractériser ses enfants. » Est-ce que ma vie est faite de grâce? Jésus était caractérisé par la grâce. Et tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Ils disaient « N'est-ce pas le fils de Joseph ?» Et en Colossiens 4, 6, il dit que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. La parole du croyant est comme un sel qui préserve et retarde la détérioration de ce monde. Par nos paroles, nous sanctifions le monde. Et la Bible dit que le converti, il sanctifie l'inconverti, n'est-ce pas, dans le mariage, à cause de son témoignage, et certainement au travers de sa parole, de ses paroles. Donc nous devons apprendre à renoncer au vol, tout vol, n'est-ce pas, manifeste ou caché, subtilement, qui peut se présenter sous différentes, n'est-ce pas, catégories. On peut voler Dieu, on peut voler les autres, mais tout est à découvert, à nu, devant celui à qui on doit rendre compte. On peut dire des paroles mauvaises, et c'est terrible comment des paroles peuvent détruire, mais on peut dire de bonnes paroles, ça c'est positif, et rendre grâce à Dieu. Et enfin, la Bible dit, et j'espère pouvoir terminer le message ce matin, je vous remercie de votre attention, n'attristez pas le Saint-Esprit. Ça, c'est très fort. N'attristez pas le Saint-Esprit. Comment peut-on attrister le Saint-Esprit? Eh bien, en mentant. Quand le croyant ment, le Saint-Esprit est attristé. Quand le croyant se met en colère, le Saint-Esprit est attristé. Quand le croyant vole, le Saint-Esprit est attristé. Quand le croyant donne une parole mauvaise, le Saint-Esprit est attristé. Donc la Bible dit que nous devons être remplis du Saint-Esprit et ne devons pas attrister le Saint-Esprit. Tout ce qui touche à la volonté de Dieu, à sa sainteté, à son caractère, en n'étant pas selon les normes divines, attriste le Saint-Esprit. Et la Bible dit, n'éteignez pas l'Esprit. En fait, le Saint-Esprit est une personne. Peut-être ce matin, on doit prendre une ou deux minutes au moins pour parler de la personne du Saint-Esprit. Il est prouvé que le Saint-Esprit est une personne dans les Écritures. C'est la troisième personne de la Trinité. Il est une personne. De même que Dieu est une personne, Jésus-Christ est une personne qui s'est incarné, le Saint-Esprit est une personne. La Bible le mentionne comme étant un consolateur. Le Saint-Esprit a une intelligence, des sentiments, une volonté. Il agit, alors j'ai toute une liste de références bibliques, mais on ne prendra pas le temps de le voir ce matin. Il agit, il sonde, il parle, il témoigne, il enseigne, il convainc, il régénère, il intercède, il guide, il glorifie Christ et il dirige le service pour Dieu. Quelles sont les attitudes que nous pouvons avoir par rapport au Saint-Esprit dans la Bible? J'en ai trouvé 6. Nous pouvons le tenter comme Ananias et Saphira. Nous pouvons lui mentir comme Ananias et Saphira, acte 5. Nous pouvons lui résister. Nous pouvons l'outrager, Hébreux 10, 29. Nous pouvons même le blasphémer, Matthieu 12, versets 31 et 32. Ou bien, on peut en être rempli. C'est pour ça que la Bible dit en Éphésiens 5, 18, « Soyez remplis du Saint-Esprit. » Ici, dans l'expression grecque, c'est « Ne cessez pas d'être remplis du Saint-Esprit. » Ce n'est pas moi qui peux me remplir. Laissez-vous remplir du Saint-Esprit. Évidemment, dans la mesure où j'obéis au Seigneur. Saint-Esprit pour lequel vous avez été scellé pour le jour de la rédemption, c'est ce qu'on trouve en Éphésiens 1, versets 13, 14. En fait, je trouve que des fois, nous vivons vraiment la vie chrétienne à rabais. Nous ne sommes pas conscients de tout ce que nous possédons en Christ. Le même esprit qui a créé les cieux et la terre qui se mouvaient est le même esprit maintenant qui habite en toi. Ton corps est devenu le temple du Saint-Esprit. Ce même esprit qui a créé les cieux et la terre, ce même esprit de sainteté, daigne habiter, me sceller pour le jour de la rédemption, pour le jour de mon salut déjà sur terre et mon salut éternel, n'est-ce pas, dans les cieux, lors de la rencontre du Seigneur. Est-ce que je suis reconnaissant au Seigneur pour mon salut? Est-ce que je suis reconnaissant au Seigneur pour le Saint-Esprit qu'il m'a donné? Est-ce que je le chéris? Est-ce que j'y suis sensible? Ou est-ce que j'étouffe la voix de l'Esprit? Ou est-ce que je désire marcher rempli du Saint-Esprit? Marchez donc selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Quand les désirs sont là, c'est la preuve que nous ne vivons plus selon le Saint-Esprit. Et la Bible dit donc, et c'est un commandement ici, et nous allons parler d'un commandement très particulier que l'apôtre Paul nous communique, que toute amertume, etc., disparaisse du milieu de vous. Donc je dois le faire disparaître dans ma vie pour qu'il disparaisse au milieu de l'Église. Et je suis exhorté à me sanctifier, à vouloir être transformé, et dans des domaines particuliers qui sont peut-être la tendance naturelle à pécher. John MacArthur dit dans son commentaire, « Tout homme a une tendance naturelle à pécher. » Vous êtes d'accord? Vous n'avez pas l'air d'accord, là. Hein? Je plaide coupable, hein? Et tout péché a une tendance à devenir un péché plus grand. Tiens, on dirait que le péché, lorsqu'on lui donne la place, il veut encore plus de place. Le péché du croyant possède autant cette tendance que celui du non-croyant. C'est pour ça qu'il y a des croyants qui peuvent tomber plus bas que des non-croyants. Si on ne méprise pas, si on ne maîtrise pas ces péchés intérieurs d'amertume, d'animosité, de colère, ils conduisent inévitablement aux péchés extérieurs de clameur, de calomnie et de méchanceté de toute espèce. Alors qu'est-ce que ça signifie ces mots-là? Amertume, animosité, colère, clameur, calomnie et méchanceté. Premièrement, fait une petite étude. Premièrement, l'amertume, c'est un nom grec, je vous passe le nom peut-être, désigne un ressentiment qui couvre une attitude pétrie de rancune. Alors, il y a un verset, je crois, qui... tournez dans vos Bibles. Tiens, je ne vous ai pas demandé de tourner encore dans vos Bibles. Hébreux 12, 15. Il est écrit en Hébreux 12, verset 15, « Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. » Qu'est-ce que ça veut dire, cela? Ce verset nous dit que l'amertume est comme une racine principale qui, lorsqu'elle n'a pas l'amertume été enlevée de nos cœurs, prend racine dans le cœur et pousse des rejetons. Quelqu'un peut être blessé, même peut-être injustement. L'amertume touche parfois des choses imaginaires ou des choses réelles, mais nous sommes responsables, la Bible dit, de la façon avec laquelle je réagis au problème. Je ne peux pas toujours contrôler tout ce qui arrive autour de moi, mais la façon avec laquelle je réagis, j'en suis responsable devant Dieu. L'amertume est donc une racine qui peut amener des rejetons. Quelqu'un qui est amer sur un sujet peut devenir amer sur tout sujet. Et parfois, je ne sais pas si vous avez déjà été en contact, malheureusement, ça peut être le cas parfois, de certaines personnes âgées qui sont amères et qui parlent toujours négativement de toute leur vie passée, présente, et qui n'ont pas d'espoir, qui ne sont pas régénérés dans leur cœur. Et c'est triste cela. Lorsque la rancune prend la place dans un cœur. J'ai une voisine qui a été abandonnée de ses parents. Et ce qui m'a frappé avec les années de relation, c'est de voir que cette dame est finalement très prompte à devenir amère dans sa vie. Et je me suis toujours posé la question, pourquoi elle est si sensible à l'amertume? Et j'ai compris que cette injustice qu'elle a subie dans son enfance, d'avoir été rejetée par ses parents, puis d'avoir été adoptée par d'autres, elle n'était pas capable de pardonner. Et dans son amertume, elle n'est pas capable de pardonner, jusqu'à se fâcher avec des membres très proches de sa famille, par manque de pardon. Donc des fois dans la vie, il y a des choses qu'on doit apprendre à remettre au Seigneur, pour pas que l'amertume, qui est une racine qui peut s'approfondir, pousse des rejetons et gagne tout le caractère. Et c'est vrai dans le croyant. Il est prouvé que dans nos églises, le manque de pardon est un des problèmes majeurs de la communion fraternelle. L'autre terme pour animosité, c'est l'idée de crise de colère. C'est le courroux. Je me souviens une fois, une personne qui a claqué la porte de mon bureau ici. Et je me souviens toute ma vie. Je pense que de claquer la porte du pasteur, en général. Je ne me justifie pas en disant ça. Je suis pécheur aussi. Mais ce n'est pas bon signe quand même. Ce n'est pas bon signe, non? Vous ne trouvez pas? Ou claquer la porte d'une église. Ou claquer la porte de quelqu'un. Ce n'est pas régler les choses. C'est le courroux. C'est même l'idée, le mot grec, de la rage, de la passion du moment. Ce n'est pas sain. Puis le colère, le mot colère ici, c'est le mot grec orgé qui a donné la colère qui dure. Ça évoque un sentiment qui couvre plus intérieurement, subtil et profond. C'est une colère, n'est-ce pas, qui est maintenue. Vous n'avez jamais vécu près des gens ou vu des gens qui sont apparemment constamment en colère. On dirait que le feu est toujours en train de faire bouillir le lait, n'est-ce pas? Ils sont prêts toujours à déborder. Alors c'est difficile parfois à baisser le feu parce qu'on n'a pas le contrôle du bouton, n'est-ce pas, de leur tempérament. Et puis, des gens se disent « Oh, moi, je suis comme ça. » C'est une bonne excuse, parfois, n'est-ce pas? La clameur, c'est fort comme mot grec. C'est le cri de querelle. Ça évoque l'éclatement public qui révèle une perte de contrôle de soi. Ça vous est jamais arrivé de voir quelqu'un perdre le contrôle dans un lieu public et tout d'un coup dire quelque chose qui devient un scandale? C'est le cri, la clameur, c'est un cri public de querelle. Donc, ça amène la division. Le terme, en fait, calomnie, c'est le mot blasphémia en grec, qui a donné le mot blasphème, c'est la diffamation continue de quelqu'un et qui sort d'un cœur amer. Et finalement, le mot méchanceté, c'est le mot qui a donné le mot français malice, qui désigne la racine de tous les défauts. Donc les termes grecs ici sont très forts. En fait, il souligne tout simplement la tendance naturelle du péché de l'homme. Et la Bible est catégorique, que tout cela disparaisse du milieu de vous. Amen. Mais ce n'est pas fini. Heureusement que Paul termine par une note positive, ce qu'on va faire avec lui, n'est-ce pas ? Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Non seulement je dois avoir la vision de Christ pour me placer en Christ et revêtir l'homme nouveau pour être habité du Saint-Esprit et vivre dans la plénitude de Dieu, mais je dois avoir la vision du Christ qui me transforme, qui peut justement mettre de côté par sa puissance et sa force, par la vie de l'Esprit en moi, la loi de la vie m'a affranchi de la loi de l'Esprit de vie, Romains 8, versets 1 et 2, m'a affranchi de la loi et du péché pour revêtir des bons sentiments. Et autant les mots grecs, n'est-ce pas, négatifs de la tendance humaine à pécher sont très forts, autant les mots ici positifs que l'apôtre Paul mentionne, la bonté, la compassion, le pardon réciproque, sont aussi très forts. En fait, ces péchés-là dont on a vu tout à l'heure, ce sont les péchés qui brisent la communion fraternelle, qui détruisent les relations, qui affaiblissent ou qui pourraient affaiblir l'Église et endommager le témoignage de l'Église dans le monde. S'il y a bien une chose qu'on reproche à l'Église parfois, ce sont ces divisions, ces particularismes, alors qu'en Christ on devrait être unis par un esprit d'humilité, un esprit de grâce et de bonté. Entre parenthèses, le voir à l'instant, je voudrais terminer le message. En Colossiens 3, vous avez le parallèle d'Éphésiens. Éphésiens et Colossiens sont deux livres parallèles dans le Nouveau Testament. J'aimerais attirer votre attention tout d'abord, souligné par un verset ou deux, qui dit ceci en Romains 5. « Mais Dieu prouve son amour en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère, car lorsque nous étions ennemis, nous avions été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. À plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. » Autrement dit, ici, je pense qu'il y a un appel à l'apôtre Paul, vous avez été sauvés, maintenant revêtez-vous de Jésus-Christ, ayez de bons sentiments. Faites honneur à votre Sauveur qui vous a donné le pardon. Faites honneur à votre Sauveur qui a compati pour vous. Faites honneur au Seigneur qui vous a pardonné. À Dieu d'éternité, saint, pur, sans tache, qui vous a pardonné en Christ, qui a payé le prix. Alors quel est le prix que tu dois payer pour pardonner? C'est renoncer à teaser la vengeance ou la rancune. À pardonner. Tout d'abord, donc, trois commandements positifs. Soyez bons. Soyez compatissants et puis vous pardonnant. Ces trois commandements ici. Soyez bons les uns vers les autres, c'est l'idée de ce qui convient à un besoin. Le Seigneur est caractérisé par une bonté inconditionnelle. J'aimerais vous poser une question. Est-ce que vous êtes attentif à votre frère ou votre sœur qui est dans l'Église ici? Est-ce que vous pouvez évaluer un de ses besoins et désirer le combler? C'est ça, exercer la bonté. Ce n'est pas « je viens, puis je vis pour moi-même ». Il n'y a pas de place pour exercer la bonté à l'égoïsme. L'égoïsme, c'est vivre pour soi, c'est penser à soi, c'est agir pour soi, c'est se motiver que pour ses propres intérêts. La bonté, c'est devenir altruiste, c'est dire « qu'est-ce que je peux faire pour faire du bien à l'autre ?» Je ne cherche pas mon bien, je cherche le bien de l'autre. Et parce que je m'oublie, Dieu me remplit de joie. D'ailleurs, c'est la base de la vie du couple, n'est-ce pas? Dieu dit ceci, et votre récompense sera grande et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Dieu exerce sa bonté. Et la Bible dit, mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer. Même Dieu nous demande d'aimer nos ennemis. À combien plus forte raison devrait-on aimer nos amis, non? Et nos frères et sœurs. Jusqu'à quel point aimez-vous votre frère, votre sœur, qui est juste à côté de vous, ici dans l'Église? Est-ce que vous le connaissez? Est-ce que vous prenez soin de lui? Est-ce que vous vous intéressez à lui? Quelle est la dernière fois où vous avez montré un geste de bonté envers un frère ou une sœur? Qui est mesurable? Ce n'est pas mon frère, je t'aime. Mais si tu meurs de faim, ce n'est pas grave, Dieu va pourvoir tes besoins. N'aimons point en parole, mais en action, en vérité. Quelle est la dernière fois où vous avez vraiment exercé la bonté du Seigneur? Je m'entends, une bonne œuvre préparée d'avance, la bonté du Seigneur envers quelqu'un, et ça vous a réjoui. La bonté du Seigneur. Est-ce que vraiment nous vivons cette bonté parmi nous, de penser aux autres? La compassion, hein, le mot compatir vient du mot latin compatir, souffrir avec. Est-ce que nous manifestons vraiment cet esprit de compassion? En fait, quelqu'un a écrit, être compatissant, c'est d'avoir au fond de soi, de ses entrailles, une douleur qui nous ronge par compassion pour les besoins de quelqu'un. Personnellement, je suis heureux de connaître un frère. Je sais qu'il a un don de compassion. C'est un pasteur, en fait. Et quand je l'appelle et je commence à dire une chose, ah, je vois en lui, sans le voir, mais je sais qu'il a une compassion profonde et qu'il prend ce sentiment de compassion pour l'amener vraiment à chercher à trouver une solution. C'est beau cela. La compassion, ça pousse à avoir des entrailles de miséricorde. Est-ce que vous avez déjà pleuré pour quelqu'un, plaidé pour quelqu'un, peut-être même pour son salut? Il y a parfois des gens qui vivent autour de nous dans de telles situations misérables. Est-ce qu'on est plein de compassion ou est-ce qu'on est dur, insensible, comme le monde parfois l'est, n'est-ce pas? Vous pardonnant réciproquement, c'est intéressant parce que c'est être plein de grâce, de bonne grâce. Dieu nous a fait grâce, donc maintenant je fais grâce aux autres. D'ailleurs, c'est Matthieu 18. Vous avez lu l'histoire quand Pierre dit « Seigneur, combien de fois faudra-t-il que je pardonne ? » Jusqu'à 7 fois. Et Jésus a dit jusqu'à 7 fois, 7 fois, 70 fois, 490 fois. En fait, Jésus est en train d'expliquer dans cette parabole qu'il y a un homme à qui il a été remis une dette, mais qui rencontre quelqu'un qui lui doit quelque chose et qui lui fait payer toute sa dette. Alors que le premier homme a été pardonné des milliers de fois plus dans sa dette que l'autre, remis sa dette, qui a bénéficié de la grâce de son patron, il devient méchant envers l'autre. Et la Bible est catégorique ici. Savez-vous que le manque de pardon est punissable par Dieu? Je vous lis le texte. La conclusion de Matthieu 18. Ça, je perdais le chapitre. Matthieu 18, voilà ce que dit en conclusion l'histoire. Et son maître irrité le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera, et chacun de vous, si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Je vais vous dire, pardonner est peut-être une des choses les plus difficiles pour certaines personnes à faire. Et à un moment donné, dans la vie, on est dans une situation où Dieu nous enseigne, malgré nous-mêmes, que la seule solution, c'est de pardonner parce qu'il n'y a pas d'autre. Et quand on a commencé à goûter à cela, à pardonner, il y a une vraie victoire dans le pardon. Une vraie victoire. Parce que Dieu nous appelle à pardonner, à oublier, à regarder les autres avec le pardon et à être prêt à pardonner. Est-ce que nous pouvons refuser le pardon à quelqu'un qui nous offense alors que Jésus-Christ nous a pardonné et de quelle façon? En fait, les raisons de ces commandements positifs, c'est que envers les croyants, Dieu en Christ est bon pour moi. Dieu en Christ est compatissant pour moi. Dieu en Christ est miséricordieux. Alors on va terminer, c'est la conclusion. Merci d'être resté jusqu'au bout. Voilà, faire disparaître les mauvaises habitudes, revêtir. Conclusion, Dieu m'invite. Ah, ce matin, vous êtes peut-être invité à midi, je ne sais pas, mais Dieu a une invitation pour vous. Il vous invite à quoi? Il vous invite premièrement à passer du mensonge à la vérité. Ensuite, il vous invite à renoncer à la colère injuste. Et si votre colère est juste, ne vous endormez pas là-dessus, parce que l'émotion de la colère peut entraîner d'autres émotions qui finalement donnent accès au diable. Dieu m'invite de passer du vol à la générosité. Il n'y a plus de bonheur à donner. À travailler en pensant aux autres, à vivre pour les autres. Dieu m'invite de passer des paroles mauvaises aux bonnes paroles. C'est une bonne chose, n'est-ce pas? C'est incroyable, quand la personne se convertit, tout change dans sa vie, même son langage, ses habitudes. Dieu m'invite, enfin, à ne pas attrister le Saint-Esprit, et c'est un commandement, de passer des défauts naturels aux vertus surnaturelles qui ne sont pas peut-être dans ce monde, de l'amertume, l'animosité, la colère, la clameur, la calomnie, la méchanceté, à la bonté, à la compassion, au pardon réciproque. Défi personnel, c'est un rappel qu'on devrait toujours avoir dans ses pensées, comme Dieu m'a pardonné en Christ. Quelle attitude dois-je avoir envers les autres? L'attitude que Dieu a eue envers moi. Et une dernière question. Est-ce que ma vie reflète le caractère de Christ? Est-ce que ma vie reflète le caractère de Christ? Alors, on est tous à l'école, hein, d'accord, du Seigneur. Nous tous et chacun. Mais ce matin, gardez cela en esprit. Est-ce que ma vie reflète le caractère de Christ? Pour refléter le caractère de Christ, je dois passer du temps avec lui, avec sa parole. Je dois me laisser transformer, je dois me soumettre au commandement de Dieu. Et les autres le voient. Est-ce que ma vie reflète le caractère de Christ? Prions. Notre Père Céleste, merci de nous avoir encore exhortés ce matin. Nous confessons notre besoin de revêtir Christ, de vivre en nouveauté de vie. Mais merci parce que tu ne nous as pas laissés orphelins. Tu nous as donné et scellé même le Saint-Esprit en nous. Merci Père de ta bonté et ta patience. Et Seigneur, nous te demandons de transformer nos caractères à l'image de Christ, à nous imprégner de sa communion, de sa personne, de sa vie, afin de transmettre la vie autour de nous, la joie du Seigneur, la paix du Seigneur, la bonté du Seigneur. Père éternel, je te prie ce matin, s'il y avait quelqu'un parmi nous ici qui ne te connaît pas encore et qui voudrait dire oui, je veux faire ce pas, je veux te connaître Seigneur. Alors priez là où vous êtes, dit Seigneur, aide-moi, je veux te connaître. Faites cette petite prière dans votre cœur. C'est un début peut-être, mais dites-le lui. Peut-être y a-t-il quelqu'un ici ce matin qui dit, mais moi, je confesse que dans ma vie, il y a du vol, il y a la colère, il y a du mensonge, il y a des paroles mauvaises, il y a de l'amertume, de la colère, de l'animosité, de la clameur, de la calomnie et de la méchanceté. Alors confessez ça à Dieu, puis revêtez-vous maintenant de Jésus-Christ, de sa bonté. Ces habits sont tellement plus royaux que nos guenilles, n'est-ce pas, de clochards spirituels. Revêtons-nous de sa bonté, de sa compassion et de pardon réciproque. Et si vous devez exercer une bonté, faites-le. Une compassion particulière, faites-le. Un pardon, faites-le. Maintenant, engagez-vous à refléter Jésus-Christ dans votre vie. Amen.